France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, j'accueille René Querigne, grand organisateur de la vie musicale de France Musique à Montpellier, mais aussi compositeur et découvreur passionné de raretés, de trésors, de bizarreries sonores en tout genre. Ensemble, nous parlerons d'humour musical, illustré par Anna Russell, Friedrich Gulda ou encore le Portsmouth Symphony Orchestra. En fin d'émission, la chronique de Serge Laïc consacrée à Guy Louis Partz. Mais puisque mon invité René Querigne est strasbourgeois, transportons-nous pour commencer et par l'opérette dans la capitale alsacienne.
Oh, voici les étudiants de Strasbourg. Je te les laisse. Toi qui vivra verra.
Valérie, Valéra, va qui vivra verra. Je comprends la place.
Ah, peut-être certains d'entre vous ont-ils reconnu cette opérette qui n'est pas la plus connue en France, du moins des opérettes de Franz Lehár. Ça s'appelle Frédéric, créé en 1928 et justement ça se passe à Strasbourg parce que le personnage principal c'est le jeune Goethe, l'écrivain, qui est à l'époque étudiant à Strasbourg, d'où ce chœur des étudiants de Strasbourg qu'on vient d'entendre avec la jolie voix de Lina Dachary, un enregistrement de l'ERTF en 1971 sous la direction d'Adolphe Sibert. Strasbourg, on y retourne dans un instant avec mon invité René Querigne.
Thank you.
Délicatesse par Marcel Azola, un enregistrement de 1957. Vous vous rendez compte, il y a 60 ans. Il faut dire que notre grand Marcel, il va fêter ses 90 ans cette année. Et je peux vous dire que sur France Musique, je ne vais pas laisser passer l'occasion.
Benoît Dutertre. Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Mais pour l'heure, nous avons rendez-vous avec mon invité pour un spécial humour musical, parce qu'il a fait tant de choses pour la musique, pour France Musique notamment. Mon invité, c'est un découvreur, c'est un compositeur, mais il est aussi un passionné de cette question du rire en musique. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, avec ses petits trésors qu'il a apportés pour nous, Monsieur René Querigne. Bonjour René Querigne. Et merci pour ce petit morceau merveilleux chanté par Anna Russell.
Ouais, oui.
Où est-ce que vous avez trouvé ça?
Ah ça, c'était Maurice Fleuret qui était turiféraire de cette musique, j'adorais ce genre-là, parce que j'avais fait
le détournement de la mélodie française.
C'est tellement merveilleux. J'avais fait une soirée à la SACEM toute une nuit et j'avais invité énormément de monde qui chantait, qui faisait des imbéciles toute la nuit. Et c'était un direct sur France Musique. Et Maurice avait chanté une chanson du même style, je sais plus ce que c'était, mais du même style.
Ouais.
C'est tout à fait à hurler de rire. C'est vraiment.
Il faut dire, hein, Anna Russell, c'était une chanteuse canadienne qui était spécialisée dans les parodies, les détournements, les pastiches.
Wagnerien, voilà. Surtout. Elle a fait une réputation extraordinaire sur Wagner.
Voilà, avec sa version du Nibelung.
Du Ring et tout. C'était absolument merveilleux. Mais l'équivalent existait en Allemagne aussi, en Allemagne, avec Bülow, qui était absolument extraordinaire aussi, qui faisait des choses. Il est mort il n'y a pas très longtemps, il y a 4-5 ans. Et qui fait des choses aussi du même niveau. Quoi.
Ah oui, l'humour musical allemand, ce serait un sujet en soi, parce qu'on imagine les Allemands comme des gens très sérieux.
Ah ben, puisqu'on parlait de Nibelungen, Oscar Strauss.
Oui.
C'est une chose que j'avais fait au Festival Radio France.
Qui une opérette qui détourne là aussi.
Des Nibelungen, c'est absolument merveilleux.
Bon, en tout cas, ça me fait plaisir que vous soyez là aujourd'hui, René, parce que je pense que les auditeurs, pour la plupart, vous connaissent bien. Alors, on se rappelle la grande époque des matinales de France Musique avec votre ami Philippe Calloni. C'est déjà assez loin maintenant. Vous avez été directeur France Musique, vous avez un peu inventé la vie musicale à Montpellier, on y reviendra. En tout cas, vous l'avez beaucoup développé. Vous avez dirigé la musique à Radio France, vous êtes compositeur. Et d'ailleurs, c'est la question, parce que je sais que vous adorez l'humour musical, mais au fond, c'est plutôt au compositeur que je m'adresse là. La musique ne peut pas être drôle par elle-même.
Non. La musique ne peut pas être drôle. Ce qui peut être drôle, c'est le détournement. Ce qui peut être drôle, c'est les paroles.
Voilà, c'est
ça. Ce qui peut être drôle. Il y a des gens qui trouvent drôle l'utilisation du piccolo, des choses comme ça, ou du tuba. Oui, mais bon, c'est pas drôle. Il n'y a que nous, occidentaux, qui trouvons ça drôle. Parce que
c'est ça.
Je suppose que les Japonais ne trouvent pas ça drôle du tout. Et donc, la musique en elle-même n'est pas drôle. L'utilisation de la musique, maintenant, au XXe siècle, commençait à se faire aussi dans l'humour. C'est-à-dire qu'on utilisait tous les moyens possibles de la musique pour faire rire. Mais faire rire qui ? Les personnes qui étaient entièrement au courant.
Oui, c'est ça.
Spécialistes, autrement, c'était...
Il faut que ce soit un détournement, mais des paroles qui ne vont pas sur les notes, etc. Et là, ça devient drôle. C'est bien le cas, d'ailleurs, de la plupart des choses que vous m'avez envoyées, que j'adore.
Il y avait une chose très intéressante de Carl Philipp Emanuel Bach, qui avait écrit une pièce très, très, très drôle par elle-même, mais ce n'est pas non plus la musique, c'est la mise en scène de la musique qui était drôle. Il est demandé à ce qu'il y ait une jeune fille qui joue la partie basse du piano, une jeune fille qui joue la partie haute du piano, et le professeur se mettait entre les deux et jouait le suraigu et le très grave.
Ah oui.
Donc il tenait les deux filles dans ses bras. Elle dure 3 minutes, la pièce. Elle est très, très drôle à jouer. Ça, c'est
mais vrai. À voir, surtout.
Mais à voir, oui, bah, évidemment. En elle-même, la musique n'est pas drôle.
Alors, on va passer en revue quelques-uns de vos choix d'humour musical, parce que c'est une question qui vous a toujours passionné, malgré
tout. Toujours.
La plaisanterie musicale.
J'ai toujours aimé ça, parce que c'est une façon de sortir de l'angoisse de l'écriture.
Ah, voilà.
Ah oui, ça, c'est très utile.
Y compris dans vos propres œuvres, on va le voir tout à l'heure, mais on va remonter peut-être, d'abord en même temps, évoquer un peu des moments de votre vie, et notamment de votre tendre enfance. Alors, avant de parler de la musique classique, sur le poste de radio, vous entendiez un peu les chanteurs de l'époque,
Piaf, Trainé, et après j'entendais Hitler.
Ah bon?
Parce qu'en général...
Pas de chansons, donc.
Et après ça... Non, si, il y avait des chansons. Mais j'ai aucun souvenir
aucun
de ça.
Souvenir.
Moi, on m'a foutu au piano à l'âge de 6 ans. Et donc, c'était terminé, les chansons.
Bon, alors, justement, non, c'est parce qu'on va écouter une chanson de l'époque, si on peut dire, ou un petit peu avant, au piano. C'est Charles Trenet, revu par Weissenberg.
Vous vous rendez compte? Alexis Weissenberg, Sigismond, avait une passion pour la musique légère. Il a écrit d'ailleurs une opérette, enfin un musical, et il jouait avec plaisir délectable, il jouait toutes sortes de chansons au piano avec sa virtuosité légendaire, évidemment. Il fait des arrangements, il adorait ça.
Et là, c'est boum, mon cœur fait boum, hein, boum. Donc vraiment improvisé, très jazzy, on peut dire, Weissenberg. Oui. Thank you. reprenne et revisité par Weissenberg. Et voilà les archives de René Curine. Weissenberg, que vous avez bien connu.
Ah oui, Alexis, c'est un grand ami.
Votre témoin de mariage.
C'est le témoin de mon mariage, oui.
Et vous connaissez, alors, je pose la question parce que plusieurs fois des auditeurs m'ont attiré mon attention, disons, sur cette comédie musicale d'Alexis Weissenberg.
Oui,
c'est vraiment quelque chose
de, ah oui, c'est très très bien.
Qu'il faudrait ressortir.
Il faudrait. Ouais. On n'a pas le goût des comédies musicales en France, sauf maintenant. Heureusement que Chopin est arrivé.
Oui,
il y en a de plus en plus.
Ça change un peu, oui.
Mais celle d'Alexis, c'est une très jolie chose. Évidemment, les gens sont toujours un peu chagrins quand un pianiste aussi sérieux que Weissenberg se met à écrire des comédies musicales. Parce qu'il me disait toujours, tu sais, on m'a demandé de jouer Rachmaninoff. J'ai dit oui, au cinéma. J'ai dit oui, il faut absolument que tu le joues. Parce que, un, tu ressembles comme deux gouttes d'eau à Rachmaninoff.
Ouais.
Il a dit, tu sais comment on l'appelait, Rachmaninoff, à l'époque? Je dis non. Il me dit, on l'appelait le puritain.
Ouais.
Dans le milieu, on l'appelait le puritain, parce qu'il était sévère, ouais. L'inverse de sa musique.
Ouais.
Il a dit, tu vois, on me demande toujours de jouer ce rôle-là, parce que ça m'irait finalement bien.
Vous pensez que c'est mal accepté qu'un musicien ait plein de fantaisie? On pense à Goulda, qu'on écoutera tout à l'heure, ou d'autres.
Oui, Goulda, voilà, encore voilà. Un ami. Non, il y a Armin Jordan.
Mais on aime bien les enfermer dans une seule case.
Non, je crois qu'on accepte facilement, dans le privé, qu'un musicien fasse bien la cuisine et fasse rire.
Vous êtes quand même né en pleine débâcle, parce que c'était en mai 40, mais évidemment, on n'avait pas beaucoup de souvenirs de ce mois mai 40. Vous en avez plus de la libération et des premiers soldats
américains. Oui, les premiers soldats, le chewing-gum et les oranges. Les premières oranges.
Et vous êtes né en plus en Alsace, donc dans une histoire franco-allemande un peu difficile.
Vous êtes devenu
quasiment allemand jusqu'à la fin de la guerre, non?
Mon premier prénom était Rainer.
Ouais.
Je suis inscrit à la naissance sous le nom de prénom de Rainer. Ensuite, quand les Français sont arrivés, mon père a voulu traduire ça en français. Il a dit que ce serait Régnier. Ils ont dit non, ça n'existe pas, ça Régnier. Et ils ont dit c'est René.
Et c'est comme ça que vous êtes devenu René.
Ouais,
Curine, qui n'est d'ailleurs pas un nom alsacien, mais je crois un nom suédois.
Suédois.
Et là, donc, vous avez très vite adoré la musique et le piano en particulier.
Oui, parce que ma maman était très, très folle de piano et de musique. Mais mon père a arrêté très vite le violon. Dans les années 30, il ne jouait plus de violon, mais de temps en temps.
On peut dire que, comme beaucoup de petits Alsaciens, vous avez une culture, une formation musicale qui était plus germanique, si on peut dire, que française.
Je vais vous surprendre. L'Alsace, que moi j'ai connu, d'abord après j'étais élevé par les Jésuites, donc c'était disparu.
Oui.
J'étais à la frontière. Donc j'avais disparu de l'Alsace un petit peu. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'en Alsace, on ne pouvait pas parler alsacien normalement, au lycée et tout ça, à l'école. Ouais. On parlait français. Parce que dans le tramway de Strasbourg, il y avait une pancarte que je vois toujours, toute ma vie j'ai vu ça. Ouais. Cette pancarte qui se balance. C'est une grande pancarte et elle est marquée « C'est chic de parler français ».
Ah oui, c'est drôle. Oui.
Ben oui. Et toute l'administration d'ailleurs de l'éducation était française. Il n'y avait pas d'Alsaciens. On se méfiait.
Mais en même temps, Strasbourg est une ville de culture très profondément germanique par certains aspects.
Oui. Ouais. Je me souviens, petit, j'allais sur les traces de Goethe pour voir où est-ce qu'il habitait, où est-ce qu'il allait voir sa fiancée, Friederike et tout ça.
Oui, il y a même une opérette de Franz Lehár qui raconte
que j'ai fait d'ailleurs avec Foster.
La jeunesse de Goethe à Strasbourg.
À Strasbourg, oui.
À quel moment vous avez pensé que vous deviendriez musicien?
J'ai jamais pensé être musicien.
Pensé à ça.
Je voulais absolument être peintre.
Ah bon?
Oui, et j'ai peint jusqu'à l'âge de 16 ans, 17 ans. Et là, ça a basculé. Et alors, bizarrement, c'est Pierre Boulez qui m'a entraîné dans la musique.
Alors, on va raconter ça, mais on va d'abord écouter une musique qui évoque peut-être plus le monde de l'enfance, parce que tous les petits pianistes, comme vous étiez, jouent beaucoup de Mozart, j'imagine. Vous m'avez envoyé un compositeur qui est un précurseur de Mozart et de son opéra, la Flûte Enchantée, où on trouve un duo des chats. En plus, avant l'heure, dans cette partition qui s'appelle Der Stein, Der Weisen.
C'est pas un précurseur de Mozart. C'est le duo des chats qu'on va entendre, c'est Mozart qui l'a écrit. Et le précurseur, c'est pas un précurseur, c'est Schikaneder, qui a fait, 2 ans avant la Flûte Enchantée, a fait un opéra avec d'autres amis, chanteurs, compositeurs, a fait un opéra qui s'appelle Stein der Weisen, le père philosophal, et qui est exactement l'histoire de la Flûte Enchantée.
Voilà. Mais alors, quelle est l'intervention de Mozart là?
Il a écrit des airs, 3 airs.
Il a écrit une partie.
Tout le monde
des
a écrit
airs.
Un petit peu la musique là-dedans, parce que c'était très, très copain. Et surtout, Mozart a corrigé, je pense, beaucoup de choses que les autres ont écrites. Parce que je crois qu'il n'était pas très doué. Et je pense même qu'il a dû orchestrer un petit peu, donner des conseils. Mais en tout cas, l'air de Papageno et Papagena, qui s'appelle pas Papageno et Papagena, dans cette pièce-là.
Dans cette première version, c'est son autre personnage.
C'est vraiment le duo des chats.
Le duo des chats, un siècle avant l'heure.
C'est Mozart.
Nun liebes Paar. wohl heraus. Nicht wahr, nun bleibst du gern zu Haus.
Miau, 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 miau.
Der Teufel hol das Miau-Geschrei, sonst bleibst du mir alleine treu.
Miau, 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 miau.
Miau, miau, miau,
miau. Oh weh, ich armer Mann. Sie ist behext, was fang ich an?
Miau, 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 miau.
Kevin Dees dans le rôle de Lubanara et Jane Guérin de Hahn dans le rôle de Lubano. Cet extrait de Der Stein, Der Weisen. J'aurais cru, René Curine, que c'était un enregistrement de Montpellier, mais non pas du tout. Vous avez monté tellement d'œuvres inconnues, rares à redécouvrir.
87 opéras.
Vous aimez bien les premières versions. En plus, vous avez fait un Don Giovanni, par exemple, de Gazzaniga.
Aïda aussi.
Vous avez fait un premier Aïda, vous avez fait une première Salomé.
Oui.
Mais vous n'avez pas fait la première Flûte Enchanté.
Non, je voulais le faire.
Version de Boston.
Ouais, ouais, ouais.
En tout cas, voilà une œuvre, oui, une œuvre très belle. On viendra d'ailleurs sur toutes ces redécouvertes que vous adorez, mais vous nous parliez à l'instant de l'avant-garde. Et pour faire le lien simplement avec l'Alsace, il y a eu aussi deux personnages très importants. Pour vous, ça a été deux grands chefs alsaciens, Ernest Bourg et Charles Bruck.
Charles Bruck n'est pas alsacien, heureusement, il est hongrois.
Oui.
Mais il était en Alsace.
Il était en poste.
Ernest Bourg, qui lui est vraiment un homme merveilleux, vraiment extraordinaire. C'est peut-être les plus belles symphonies Haydn que j'ai entendues, qui existent d'ailleurs en disque, d'ailleurs, qui sont absolument splendides. Et ensuite, il est allé à Baden-Baden. Et Charles Bruck, qui a été mon premier choc orchestral, si on veut.
Ils vous ont un peu fait découvrir des répertoires qu'on jouait vraiment à ce moment-là.
Parce qu'on se voyait.
Mais c'était des curieux, déjà, comme vous, je veux dire, des gens qui aimaient aller chercher des œuvres.
Mais le premier chef qui m'a absolument fasciné, c'était Furtwängler, que j'ai vu quand j'avais 9 ans, je crois, ou 10 ans, une chose comme ça, au Festival de Strasbourg.
Ah oui, grand festival.
Incroyable. Là, je suis resté fasciné. C'est ça qui m'a donné le goût de la musique, je pense.
Voilà. Mais c'est Boulez qui vous a entraîné vers la musique.
Oui, parce que je faisais le Célestin dans un truc qu'il faisait, et je comprenais pas du tout cette musique, parce que pour moi, la musique la plus avant-garde, que c'est dans les années 60, c'est le 6 janvier 60. D'ailleurs, c'est drôle, parce qu'il est mort un 6 janvier. Et
alors vous en étiez à quoi? Debussy, à Mahler? Non,
non plus, j'étais à Bartok.
À Bartok,
oui. À Bartok, et ma mère disait, arrête de jouer ces horreurs. C'est Bartok qui a passé une horreur. Et je connaissais pas du tout ni Weber, ni Schoenberg, ni... Et c'est lui qui m'a appris ça et qui m'a dit viens à Darmstadt cet été avec Maderna. Je te rencontrais Maderna et Maderna était.
Mais votre maître. Vrai maître, c'est Maderna.
C'est Maderna.
Alors, bon, aujourd'hui, on parle d'humour musical avec vous, René Curine, mais il faut dire que dans le milieu d'Armstadt, ça ne devait pas rigoler énormément. Alors, peut-être que Maderna était quelqu'un qui avait plus de sens de l'humour,
oui.
Sans vouloir du tout être médisant que Boulez, mais peut-être que Boulez avait de l'humour aussi, d'ailleurs.
À l'époque, Boulez, c'est pas ce qu'on imagine.
Mais c'était non, quoi la rigolade bien... à Darmstadt, écoutez, avec Maderna?
Vous savez, tous les soirs, on avait concert, que, en général, Maderna dirigeait toutes ses œuvres, et après le concert, on allait au Staatskeller, qui était un bistrot dans une cave, en dessous de la mairie, qui est tenu par un Vietnamien, et on bouffait là, et on faisait les cons, et là, j'ai vu tout ce qu'on voudra, j'ai vu, je te parle, vous êtes dansé avec Boulez, des choses comme ça.
Ah,
on rigolait, ah oui, mais on rigolait vraiment beaucoup. Et après, j'allais chez Maderna, et il me disait, viens, on va faire un cours de musique, qui consistait à m'apprendre à faire les spaghettis, la matriciana et tout ça, à faire la cuisine, parce que,
voilà.
Et à boire.
Les Italiens étaient plus bon vivants que les Puritains
d'avant-garde. Non, non, ils n'étaient pas bon vivants.
Non, mais Berriot et Maderna.
Berriot et Maderna, oui, ouais. Oui. Et vous savez, c'est une période tellement invraisemblable, parce qu'on habitait tous, à part Boulez et Messiaen, qui habitait l'hôtel toujours, et Maderna qui habitait chez lui, parce qu'il avait sa maison à Darmstadt, on habitait un étage comme ça, où il y avait des chambres, avec au milieu un grand hall, où il y avait 24 robinets. Et vous savez, comme dans c'était une école de
comme dans les colonies de vacances.
C'est, oui, c'est une école de jeunes filles. Et on habitait là. Alors, le Gigi Nono habitait avec sa femme dans une des chambres. Ligeti habitait avec sa femme. Et moi, on m'avait mis avec Poussotti. Alors là, ça, évidemment, on rigolait comme des fous toute la journée. Mais j'ai vu des choses extraordinaires, les attaques, comme dans les séances préélectorales, vous savez, entre les gens qui sont candidats, entre Boulez, Stockhausen et Luigi Nono, et Xenakis, qui n'est pas, d'ailleurs, mais qui était haï et détesté.
La guerre de Chapelle.
Ces gens se disent des horreurs. Hein. Stockhausen, des horreurs sur tout le monde, Boulez, des horreurs sur tout le monde. C'était effrayant. C'était une guerre constante.
Mais vous-même, vous étiez un pur et dur à l'époque.
Oui, oui, bah, comme on est à cet âge-là. Hein,
c'est, ouais,
c'est, y a une histoire célèbre avec Poulenc. Mais, et puis,
oui, rappelez-nous, d'ailleurs, vous avez quasiment insulté la musique de Poulenc dans un concert, comme
mais
ça.
Parce que je n'aime... Oui, bah, je ne savais pas. Je ne savais
pour
pas
vous, c'était
était
la
Boulez.
Musique néoclassique.
Oui, c'était vraiment n'importe quoi.
Voilà.
J'ai dit des horreurs.
Et puis, tout d'un coup, Poulenc est apparu après le concert.
Poulenc est venu me voir avec Bruch. J'ai enregistré une petite pièce à moi dans la radio. Moi, j'étais très coincé parce que je disais, mon Dieu, c'est Poulenc à qui, hier soir, j'ai dit des horreurs. En sortant, Bruch a dit, écoutez, je peux vous présenter Maître Poulenc. Moi, je ne savais plus où mettre, hein, je peux vous dire franchement. J'ai dit, bonjour Maître. Il m'a dit, c'est pas vous, hier soir, qui avez écrit les horreurs soir? J'ai dit, oui, il m'a dit, vous avez raison, à votre âge, je faisais pareil.
Ah.
Oui, donc, et alors, c'est drôle, parce qu'on a parlé de Boulez, il m'a dit, écoutez, vous avez dit que ma musique, c'était rien que de Boulez, évidemment. Bon, d'accord, mais j'étais pas très riche, j'étais pauvre, comment dire. Donc, Poulenc a dit, écoutez, je vais vous payer chaque mois, je vais vous payer le voyage, Strasbourg-Paris, aller-retour en train, je vais vous payer l'hôtel, et je vais vous payer les billets pour aller au concert du domaine,
du
musical.
Domaine musical.
Chaque fois qu'il y avait un concert.
Poulenc a financé pendant
deux ans.
Deux ans de déplacement à Paris
les déplacements
pour
et les hôtels et tout, pour que je puisse. Et quand j'arrivais à Paris, il m'invitait à déjeuner. Sa gouvernante était alsacienne, donc elle me faisait des choses alsaciennes. Et comme ça, j'ai pu écouter Boulez très très bien.
Il y avait aussi un personnage dans ce milieu de l'avant-garde qui avait quand même un vrai goût de l'humour musical, c'était Maurizio Kagel.
Kagel, oui.
Ça n'indisposait pas un peu les autres, justement, ce goût, ce sens de la plaisanterie.
Il prenait Kagel pour un imbécile. D'ailleurs, je signale qu'il prenait John Cage aussi.
Bien sûr.
Je me souviens, on avait fêté un anniversaire de Bruno Maderna chez lui à la maison. Il y avait Berriot, il y avait tout le monde. Et Bruno disait, j'espère que Cherchet ne va pas venir nous gâcher l'après-midi. Et ça sonne, la femme de Maderna va voir qui c'est, elle revient avec une tête comme ça, elle dit, c'est Cherchen.
Le grand
Cherchen. Et c'était foutu. On a passé une après-midi épouvantable, triste, on n'a pas osé rigoler, rien. Il nous a gâché l'après-midi.
Bon, en tout cas, on ne peut pas dire que vous soyez resté exactement dans les canons post-sériels de l'époque, dans votre offre de compositeur. Vous avez pris assez vite vos distances.
En 70.
Même un article de Goléa, je me souviens, qui parle tout d'un coup de la transformation de René Coeuré.
En 70, j'ai commencé à... Et c'est là que j'ai rencontré Sinopoli, à qui j'ai expliqué qu'il ne fallait pas écrire fort. Il a de la très belle musique, ce garçon. Il a écrit de la très belle musique.
Et vous-même, alors, dans vos œuvres nettement plus récentes, vous avez parfois le goût de mettre des scènes comique ou burlesque, où vous faites, on peut dire, de l'humour musical, par exemple dans votre opéra Marie de Montpellier, il y a toute une séquence
de
la voix qui se dérègle. Enfin, c'est déjà un opéra bouffe, on peut dire.
Mais ça vous fera rire, parce que c'est un opéra où on critique les musiciens d'avant-garde, etc.,
voilà.
Mais le metteur en scène d'avant-garde. Je me suis amusé avec tous mes copains, on a fait un truc épouvantable. Et à un moment donné, Marie, ça c'est une histoire du Moyen-Âge, Marie de Montpellier, c'est la maman de Jacques d'Aragon. Vous connaissez la légende?
Non.
Ah ben, c'est tout simple, c'est le monsieur, le mari de Marie... de Marie, et qui était seigneur de Montpellier, avait faible pour toutes les jeunes filles et du coup oublié sa femme. Et sa femme n'avait pas eu d'héritier, donc elle a dit, il faut que je fasse quelque chose. Elle a imaginé de demander à une des petites, dont le mari était justement très friand, d'éteindre la lumière et de laisser la place et qu'elle se glisserait à sa place dans le lit.
D'accord.
Et à ce moment-là, le mari, croyant que c'était sa petite amie, a fait un enfant à sa femme. c'est tout à fait débile, mais c'est comme ça. Et cet enfant, c'est Jacques d'Aragon, le grand roi d'Espagne. Bon, est né à Montpellier. Et donc, j'ai pris ce truc-là, parce que Fresh m'avait dit, je voudrais vous commander un opéra, écrivez-moi un opéra. J'ai dit, moi, je peux écrire qu'une chose, c'est une chose un peu drôle, j'ai pas envie d'écrire autre chose. En ce moment, j'ai pas envie. Donc, j'ai écrit cet opéra, et la maman de Marie de Montpellier était une soprane qui avait chanté à la Scala. Et elle veut montrer à tout le monde qu'aujourd'hui, c'est n'importe quoi ce qu'on fait. Autrefois, à la Scala, on chantait comme ça. Et elle chante une œuvre de Puccini qui s'appelle Butterfly.
Butterfly.
Et elle chante ça, seulement c'était en 1924. Alors elle dit que c'était comme ça à l'époque. C'est une pièce d'anthologie. Et j'ai reproduit à l'orchestre et à la soprane, qui est d'ailleurs un garçon, ouais, puisque c'est Robert Expert, il chante ça avec les craquements du disque, avec
tous les dérèglements d'un vieux vinyle, un vieux gondolé,
à 78 tours, et craquant. À 78 tours. Et qu'à un moment donné, l'aiguille glisse et se retrouve sur la plage de la Tosca.
Robert Expert dans Marie de Montpellier, ouais, l'opéra de René Querine. C'était en janvier 1994, la création. Ah oui. Voilà. Donc, à la demande de Georges Frêche, on reviendra à Montpellier. Mais c'est vrai que vous, en tout cas, vous aimez le côté bouffe dans l'opéra. Moi, je me souviens aussi, comme metteur en scène, par exemple, de votre Ariane Anaxos, ah oui, à Montpellier. C'était très, très drôle.
Enfin, avec Nathalie Dessay qui jouait une petite nymphe.
Mais vous le tourniez vraiment presque vers la farce, cet opéra de Strauss.
Mais il faut rire un peu. Mon Dieu, il y a tellement de raisons de ne pas rire. Il faut de temps en temps en profiter.
Et d'ailleurs, de décrire aussi précisément les dérèglements d'une voix.
Des choses comme ça, oui, c'est très difficile.
C'est très subtil dans la partition, bien sûr. Alors, justement, si on évoquait un peu, avant de revenir à tout ce que vous avez fait, René Querine, quelques-uns des maîtres de l'humour musical que vous aimez. D'abord, Jacques Offenbach.
Oui.
Vous en avez monté beaucoup.
J'en ai monté un l'autre jour, qui s'appelait, c'est des petits Alsaciens. Comment s'appelle cette chose?
Ah, Lichen-Fritschen,
j'ai fait, oui. J'ai fait ça au festival de Tresse que je dirige, le festival
aujourd'hui.
Intergalactique.
Et vous en aviez donné beaucoup à Montpellier,
oui,
aussi.
J'avais fait beaucoup d'Offenbach. J'aime beaucoup ce musicien parce que j'ai surtout fait des choses sérieuses de lui.
Oui.
J'ai fait les Fées du Rhin.
Oui, bien sûr.
Pure merveille, ça, oui, c'est vraiment une pure merveille. L'opéra romantique,
avec notre ami Jean-Christophe Keck, oui, qui a édité la partition.
Très bel opéra, oui. Oui, j'aime beaucoup rire.
Vous aimez Spike Jonze?
J'en ai mangé des Spike Jonze il y a 20 ans ou 25 ans, non, parce que ça, il y a 30 ans. J'avais fait un feuilleton pour France Musique. Il y avait Spike Jonze systématiquement. Il y a des choses tellement drôles. Spike Jonze. Il y avait
Hoffnung,
évidemment.
Bon, alors, ça, un mot d'Hoffnung, parce que les auditeurs ne connaissent pas forcément tous, la plupart connaissent, mais
c'est aussi un... Hoffnung
était à la fois dessinateur, compositeur...
tout ce qu'on veut, et qui a créé une série de concerts où on riait, où on s'amusait, et il avait surtout fait appel à un très grand compositeur anglais, qui, malheureusement, tout le monde ne connaît qu'à cause d'un concerto pour piano qui s'appelle le Concerto Popolare, où le pianiste arrive et ne joue pas la même chose que le chef d'orchestre, déjà.
Ah oui, c'est ça.
Et il s'appelle Eisenstein, ce compositeur anglais, qui est vraiment un type qui a un humour formidable. Et il a été copié par la suite par François-René Duchâble, qui arrivait à faire des choses comme ça, au même genre, qui enchaînait tous les concertos qu'il connaissait, et d'une façon tellement drôle, tellement amusante. Ça, on a passé
mais c'est
soirs.
Assez rare ce genre de concert, hein, on n'a pas beaucoup de l'occasion, puis c'est peut-être un gros travail.
C'est
aussi,
un énorme travail. Et c'est une question de virtuosité, hein, c'est intellectuel, c'est vraiment pas... Puis il y a P.D. Kubak aussi.
Alors justement, alors en fait, son P.D. Kubak, hein, c'est... en fait, son nom, c'est Peter Schickele.
Schickele.
Alors lui aussi, c'est un très bon musicien.
Ah oui. C'est un émigré alsacien au Canada.
Ah oui.
Qui après est aux États-Unis. Et après, il a été professeur de musique aux États-Unis. Ah oui, c'est un très très bon musicien. C'est un grand copain de Chick Corea et de ces gens-là. Et il a fait des choses merveilleuses, vraiment merveilleuses.
Et donc, il a inventé un compositeur. Hein,
oui. P.D. Kubak.
Voilà, qui serait le fils de Bach. Un des fils de Bach. Et qui a donné un certain nombre d'ouvrages. Alors, vous avez choisi une pièce qui s'appelle Le dernier tango à Bayreuth.
Oui, Le dernier tango à Bayreuth. Parce qu'il avait écrit une chose très jolie, un opéra très joli. Qui s'appelait Iphigénie à Brooklyn.
Ah, c'était aussi de Philippe Kubak.
Oui, lui aussi, oui. Ah oui, tout ça, c'est... Mais le dernier tango à Bayreuth, c'est une chose merveilleuse, parce que c'est écrit pour les bassons.
Ouais.
Et déjà, le basson, il n'a pas pris le côté, qu'on prête souvent au basson, le côté ridicule de l'émission du son. Il faut que je vous en raconte une d'ailleurs très bonne à ce propos-là.
Vas-y, on fait une parenthèse.
Hanson Bülow dirigeait comme ça une pièce, je ne sais plus laquelle que c'était, où il y avait aussi un truc de contrebasson et de basson assez impressionnant. Et ça faisait des bruits, des choses comme ça, absolument incroyable. Et la princesse de Metternich est allée le voir pour lui dire, écoutez, maître, je vous pose une question. Est-ce qu'on arrive à faire des sons aussi extraordinaires avec la bouche? Alors, Bülow lui a répondu, j'espère que c'était avec la bouche.
Et là, c'est donc effectivement un ensemble de bassons. Hein,
de bassons, mais là, c'est sérieux, c'est un tango.
C'est juste un tango, mais c'est un tango sur des thèmes de Wagner.
Ah bah oui, Tristan, évidemment.
Thank you.
The Last Tango in Bayreuth, enfin le dernier tango donc à Bayreuth. Encore un choix de René Koering, avec qui nous parlons ce matin de fantaisie, de plaisanterie musicale. Alors René, bon, vous nous avez expliqué quand vous êtes devenu finalement vraiment musicien et vraiment compositeur dans l'entourage de Maderna, Boulez et consorts. En même temps, finalement, assez vite, vous êtes entré à la radio. Vous n'avez jamais été vraiment compositeur à plein temps. Vous avez toujours eu beaucoup d'activités aussi, au fond, tournées vers le public, vers la découverte, la curiosité musicale, enfin...
De 60 à 70, je n'ai fait
que de composer.
Et en 70, d'abord, j'ai enseigné l'acoustique au Beaux-Arts à Paris, rue Bonaparte. Ouais. Et en même temps, j'ai dit, il faut que je trouve un moyen, comme je...
La question économique aussi.
Ma famille, oui, mes enfants, il faut que je les fasse vivre. Parce que la musique ne paye quand même pas beaucoup. Vous savez, à l'époque, la seule personne qui pouvait vivre de la musique, c'était Messiaen.
Ah ouais.
Oui, c'est déjà un peu plus compliqué. Et là, j'ai donc décidé de faire quelque chose que je savais faire, parce qu'on m'avait beaucoup reproché. Un jour, je me suis fait engueuler par quelqu'un qui était à la radio, qui s'appelait François Berken, qui m'avait demandé de faire une émission sur Gabriel Fauré, à Radio Strasbourg.
Ouais.
Et j'ai fait une émission. Je n'étais pas gêné, mais j'aime pas Fauré. J'ai fait une émission pour expliquer
vous avez descendu Fauré.
Voilà, descendu Fauré.
Parfaite arrogance d'un jeune homme.
Voilà, exactement. Voilà, l'arrogance d'un type qui ne doute de rien. Et François Berken, ça l'a marqué. Et comme il était à France Musique, il m'a dit un jour, tu devrais faire une émission, mais faire autre chose que sur Fauré.
Parle des choses que tu aimes, éventuellement.
Voilà. Et là, j'ai eu une histoire, j'ai fait Matin des musiciens sur Gustav Mahler. Ouais. Et je vous signale que c'était la première fois on faisait quelque chose sur Gustav Mahler d'importance.
Et c'est d'ailleurs on parlait, je crois, des chefs de Strasbourg tout à l'heure. C'est un peu là-bas que vous aviez découvert Mahler.
Ma première œuvre a été dirigée par Hans Rosbaud.
Oui.
Vous pensez bien qu'Hans Rosbaud ne parlait que de Mahler.
Alors qu'on ne le jouait quasiment pas en France.
On ne le jouait pas du tout. Enfin, à part Jean Martinon, qui a d'ailleurs aussi dirigé des pièces de moi après, on parlait de Mahler parce que ça l'intéressait.
Ah, Martinon dirigeait Mahler.
Ah oui. Il a fait une merveilleuse enregistrement de la 10e symphonie de Mahler à Amsterdam. Extraordinaire.
Et c'est donc avec Mahler que vous êtes entré en somme à France Musique.
Je suis rentré à France Musique et ça m'a fait un grand problème parce qu'il y avait un monsieur qui écrivait dans François qui s'appelle Dutour.
Oui, Jean Dutour,
qui a écrit une colonne contre moi en m'insultant, en disant que j'étais le dernier des crétins, que j'ai parlé de choses absolument n'importe quoi. J'ai parlé de la sexualité de Gustav Mahler alors que tout le monde sait que c'est un homme extraordinaire, qu'il n'avait pas de problème psychologique. et demandait au président de Radio France, qui était à l'époque, je ne sais plus comment il s'appelle, de me foutre dehors.
Ah oui.
Ah, dans l'article. Alors le président m'a convoqué, il m'a dit, écoutez, excusez-moi, est-ce que ce monsieur a raison de dire des choses comme ça, que vous avez dit n'importe quoi sur Gustav Mahler? Je dis, écoutez, moi je veux bien, mais je vais vous passer le rapport de Freud sur Gustav Mahler, vous verrez que...
Et puis dans le développement du mythe Mahler, il y a eu le film de Visconti aussi, bien sûr.
Oui.
La mort à Venise.
Oui, mais le problème, c'est que c'est pas mal.
Ah oui.
C'est un roman qui ne dit pas que c'est
énormément popularisé sa musique.
Ah oui, sa musique. Ça a aidé Mahler à un point incroyable. Mais Charles Bruck était un grand Mahlerien, Martinon était un grand Mahlerien, Maderna, il avait toutes les symphonies.
Toutes
les symphonies.
Oui, parce que les Italiens, curieusement, connaissaient presque mieux Mahler.
Beaucoup mieux que nous. Nous, on n'avait pratiquement pas le droit.
Ouais.
D'ailleurs, Pierre Boulez, pour ne revenir à lui, m'a dit un jour, ça c'est de la musique de merde. Oui.
Il a pourtant dirigé par la suite.
Après.
Bien longtemps.
Longtemps après.
Enfin, donc vous êtes entré à la radio. Et alors moi, j'ai des souvenirs. J'étais adolescent à l'époque des merveilleuses matinales avec Philippe Calonni. Je ne sais pas comment vous étiez arrivé là, mais c'était presque un duo.
C'est simple. Moi, le directeur de France Musique de l'époque m'avait viré.
Ouais.
Et Philippe Calonni, c'est absolument impossible qu'il te vire. Je te donne un petit truc dans mon émission. Tu feras un truc dans mon émission à 8h moins le quart, de 8h moins le quart à 8h pour parler de la musique contemporaine. Ça m'a permis de payer mon loyer. Je peux vous dire que ça a été vraiment, vraiment... il m'a sauvé la vie, quoi.
Ouais. Il y a eu des moments drôles dans ces matinales.
Anecdotes. J'ai passé 4 minutes 36 de silence de John Cage.
Ah oui.
Un jeudi matin.
Et sur France Musique, 4 minutes 36 de silence, c'est long.
Alors, Alors j'ai dû prévenir de toute la radio ici que personne n'envoie France Inter en plein milieu. Parce qu'en disant, il y a une panne à France Musique. Donc j'ai prévenu tout le monde. Et c'était un jeudi matin. Et le jeudi matin à 9h, il y avait la réunion de direction avec Mme Baudrier. Et Mme Baudrier a dit à Pierre Wozniacki, dites-moi mon cher, il s'en passe des drôles de choses chez vous. Ce matin, on a passé 4 minutes 30 de silence de John Cage. Vous connaissez ça? Et Pierre n'était pas au courant. Wozniacki n'était pas. Il a piqué une crise. Il devait dîner le soir chez moi avec Butor. Et il m'a dit, je viens pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu pourrais me prévenir quand tu fais des conneries et tout ça. C'est assez amusant, ça. Et puis
c'était une belle époque de France Musique.
Et puis j'avais inventé un faux compositeur aussi, italien, avec l'accent, je parlais comme ça.
Ah oui.
Oui. Et tellement, comment délirant, Charles Chêne, qui était directeur de la musique à l'époque, a rencontré Calloni en sortant de l'émission et lui a dit le type que vous avez passé ce matin, parce qu'il roulait un peu les airs, Charles, ça, avec un espèce d'imbécile, là, compositeur, avec la chance que j'ai, il va être obligé de passer une commande.
Une commande.
C'était n'importe quoi.
Ouais. Bon, bah tiens. Alors, en voilà une autre plaisanterie musicale que vous nous avez apportée, René Koering. Là, c'est un peu plus ancien, c'est en 59. C'est Michel Glotz. Faut rappeler aux auditeurs qui ne savent pas forcément tous l'importance de Michel Glotz dans
Alors,
le musical
Michel Glotz,
de l'époque.
Hein. Michel Glotz était d'abord musicien, chanteur, mais il y a très longtemps. Ah oui. Il est devenu un des grands agents européens.
Voilà.
Parce qu'il était l'agent de Carrière, l'agent de Domingo, l'agent de Victoria de Los Angeles, l'agent de Beecham, l'agent de tous ces gens. Il était l'agent et il a des relations d'amitié avec tout ce monde. Et il est venu enregistrer avec l'Orchestre National de Radio France, il est venu enregistrer Carmen, avec Beecham comme chef d'orchestre.
Thomas Beecham.
Thomas Beecham. Et le disque existe dans le commerce, enfin il existe peut-être encore. Et Victoria de Los Angeles qui chantait Carmen. Un matin, Victoria de Los Angeles a préféré rester couchée pour soigner sa voix. Donc elle n'est pas venue à la répétition, à la séance d'enregistrement. Et Beecham était totalement désespéré parce qu'il a dit « Je ne peux pas répéter un air si je n'ai pas la chanteuse. Glotz, chantez-moi le rôle de Carmen. » Alors Michel a dit « Non. » Et il a dit « Si. » Il a insisté. Il a dit « Bon, mais alors personne ne rit. Hein, c'est déjà assez difficile comme ça. »
Et c'est pas si mal, hein.
Et c'est extraordinaire. Il y en a quatre airs comme ça.
On va écouter le premier.
Que l'on se taise autour de moi. Et que l'on ne me fasse pas rire parce qu'on me fait pouffer alors que... Mais pas aujourd'hui, c'est certain.
Voilà, Michel Glotz en 1959, sous la direction de l'immense Thomas Beecham, quand même, dans ce Carmen, qui aimait tellement la musique française, en plus, Thomas Beecham. Et Glotz, qui a été aussi un de vos amis, d'ailleurs, René Koering.
C'est aussi l'agent de Weissenberg, c'était l'agent de...
Voilà. Vous avez dû beaucoup travailler avec lui. Alors, notamment, on en arrive à Montpellier, parce que, bon, après avoir été producteur à France Musique, vous êtes devenu directeur de France Musique, et puis vous avez ensuite créé le Festival de Radio France et de Montpellier. Vous avez donné un essor extraordinaire à la vie musicale de Montpellier pendant 25 ans, jusqu'en 2010, avec l'orchestre, avec le festival, avec l'opéra. Ça a été évidemment quelque chose de très important dans votre vie, j'imagine, René.
Oui, parce que quand on passe 25 ans à faire une chose comme le festival, par exemple, ou l'orchestre et l'opéra de Montpellier, c'est important parce que quand j'ai pris la direction de la musique ici à Radio France, en 2000, j'ai passé chaque semaine 3 jours à Montpellier, 4 jours ici, ou 3 jours à Montpellier. Là, ça venait de la navette, c'était un peu épuisant, et que j'ai arrêté en 2005 parce que j'en pouvais plus. Moi, j'en pouvais plus, ma femme non plus d'ailleurs, parce qu'elle disait, écoute, on ne te voit plus. Et mon fils m'a dit, papa, tu m'élèves par téléphone. C'est ça qui m'a vraiment fait réfléchir. Mais Montpellier, oui, parce que...
La complicité avec Georges Frêche a été évidemment essentielle là-dedans, et puis aussi avec divers présidents de Radio France qui sont succédé à l'époque.
C'était, c'était vraiment quelque chose qui avait provoqué l'intérêt de ces gens. Frêche était, lui, un président ou un maire de Montpellier qui voulait que sa ville soit, puisqu'elle ne pouvait pas avoir d'industrie et de choses comme ça, voulait que ce soit une ville intellectuelle et une ville de culture. Donc il a fait le festival de danse avec Montanari, il a fait le musée Fabre, qui est une splendeur, avec Hilaire, et il a fait le théâtre avec Nichel à l'époque. Et puis, quand je suis arrivé pour lui dire, je voudrais faire un petit festival ici parce que j'aimerais bien, il m'a dit, si c'est pas un petit, je suis d'accord.
Ça, on reconnaît bien Frêche, fallait être
Oui, je lui ai dit, écoutez, ça vous va, si je vous fais 120 concerts en 3 semaines, il m'a dit, c'est exactement ce que je voulais. Je ne voulais pas la Mirandella à Pézenas. Ça m'a fait hurler de rire. Et du coup, il m'a dit, si votre président est d'accord, moi je suis d'accord. Je suis rentré, j'en ai parlé à Jean-Luc Jeannet, qui m'a dit, on y va. Et en 4 mois, j'ai fait le festival. La première édition, inaugurée par des Brésiliennes sur la Grande Place, et par Rostropovitch, et par des tas de gens. Enfin, bon,
alors c'est d'ailleurs une aventure si extraordinaire que, malgré toutes les difficultés de la vie musicale à Montpellier, le festival, lui, continue encore aujourd'hui, même
si ça n'est plus sous votre direction, René.
Mais ça a été 25 années de programme extraordinaire. Et là, vous avez pu développer, je dirais, cette curiosité insatiable de la musique qui vous caractérise. Ça vous vient pas un peu de Maderna, ça, justement?
Oui, mais il y avait une raison logicielle qui était... Je pouvais pas lutter contre Aix-en-Provence. C'était totalement impossible. Ah oui. Je pouvais pas lutter contre Orange. Je pouvais pas lutter contre ces grosses machines qui existaient en France. Et en plus de ça, j'avais cette espèce de complexe d'être Radio France. Donc, les gens me disaient déjà, on vous voit venir, évidemment, Radio France, avec les moyens que vous avez, vous pouvez faire ce que vous voulez, etc., etc., c'est une horreur, pourquoi est-ce que vous nous détruisez, nous? J'ai dit non, on va faire l'inverse. Je vais faire des choses que vous ne faites pas. Je ne ferai pas une seule fois le Requiem de Mozart, pas une seule fois le 9e de Beethoven, pas une seule fois. Je ne ferai pas ça, Requiem de Verdi, oubliez. Je ferai que des choses que vous ne faites pas. Et vous et les majors, vous ne faites pas, et c'est un scandale que vous ne les fassiez pas, parce qu'il y a des musiques merveilleuses qui existent, énormément de compositeurs. Bon, ils m'ont dit, ah bon, ils se sont dit, le pauvre, il va se planter. C'est ça le problème. Et non seulement on ne s'est pas planté, mais en plus de ça, les majors ont vu naître des petites boîtes qui faisaient justement ce qu'elles ne faisaient pas elles, et qui avaient subitement un soutien. Donc j'ai fait 41 disques, j'ai fait 87 opéras.
Opéras dont la moitié de choses qui n'avaient jamais été jouées.
Plus que la moitié.
Depuis un siècle.
Il y avait près de 500 œuvres qui n'ont jamais été jouées depuis je ne sais pas combien de temps. Avec Corinne Delafont, c'était une passion. On cherchait les partitions. Et moi, je me suis aperçu d'une chose, c'est que parmi les directeurs de festival, je suis le seul à savoir lire la musique.
Ah oui,
ça aidait pas mal.
Mais vous passiez aussi votre vie à fouiller dans les bibliothèques,
partout,
en Italie notamment.
En Italie, je suis allé partout. Je suis allé en Allemagne, à Berlin, il y avait des choses fabuleuses. Ça,
ouais. En tout cas, que de belles années. Mais moi, j'ai beaucoup, évidemment, fréquenté Montpellier à l'époque. Et j'ai senti aussi qu'il y avait, d'une part, ce premier moteur qui était la curiosité du répertoire. Mais il y a autre chose chez vous, c'est que vous aimez bien les grands artistes, vous aimez vivre avec eux, dîner avec eux, sortir avec eux, faire de la musique avec eux, vous avez aussi cette convivialité.
Claudio Abbado avait dit à Montpellier, ce qui est embêtant, c'est qu'on est obligé de jouer en plein air. Bon, ça a changé, évidemment, mais à l'époque, en plein air. Et ça m'embête, mais on est tellement bien reçus par René.
Voilà, c'est ça.
Évidemment. Mais ce n'est pas une question d'argent ou de luxe, pas du tout. C'est une question qu'on faisait comme on était ensemble en musicien.
Voilà.
On faisait des trucs. Tous les grands virtuoses sont venus, que ce soit Rostropovitch,
Évoquons-en un qu'on va écouter tout de suite, c'est Friedrich Gulda. Ah,
Friedrich, il refusait de jouer partout sauf chez
Montpellier. C'est vrai?
Ça m'énervait. Oui. Ah oui, ça m'énervait. Mais bon.
Alors, Philippe Cassard, on a parlé encore récemment, je crois, dans l'émission qui précède la nôtre, mais il faut rappeler que Gulda, c'est une culture musicale totale qui va du répertoire le plus sérieux au goût de la fantaisie, du jazz, de l'improvisation. Enfin, il savait tout faire.
Ah oui. Il a composé un opéra extraordinaire, c'est dommage que personne ne le fasse. Je voulais le faire, mais ça coûtait un peu trop d'argent. C'était cet opéra qui s'appelait Paradise Island, et qui était un truc qui mettait le jazz, le soul, le funk, avec la grande musique wagnérienne. C'était formidable.
Et il changeait de costume quelquefois au milieu des concerts.
De chemise. Il venait, oui, en été, il changeait de chemise parce qu'il transpirait. Alors on le voyait avec des chemises à fleurs, des trucs absolument délirants, avec des bananes et des ananas sur le costume. En fait, c'était tellement drôle. Et puis il parlait au public.
Vous vous rappelez, alors justement, on va l'entendre là, c'est cette fantaisie sur la chauve-souris à Montpellier.
Oui, oui. Ah oui, c'était le récital de l'avion. On appelle ça, chez nous, c'est le récital de l'avion.
Parce qu'il y a un avion
qui est passé pendant qu'il jouait en plein air, c'était en plein air. Ouais. Et les gens ont cru que c'est moi qui avais piloté un petit avion, un petit drone. Pas du tout, c'était un vrai avion qui passait.
Comme vous entendez, c'est de ma patrie.
Fantaisie sur la chauve-souris de Friedrich Gulda au Festival de Montpellier, oui. Fondée, dirigée pendant très longtemps par René Koering. Bon, la vie musicale de Montpellier, il y a eu, on peut dire, objectivement un âge d'or, toutes ces années qu'on vient d'évoquer. Aujourd'hui, ça paraît plus difficile. Hein, vous regardez ça comment, vous, aujourd'hui, René Koering?
Vous savez, on peut pas...
Après la mort de Georges Frêche, voilà, on a eu le sentiment que les institutions que vous aviez créées se cherchaient un petit peu, que les collectivités se désengageaient un peu.
Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est ça. C'est qu'il y a eu une époque, il y a eu 30 années où c'était autre chose, tout à fait autre chose, par la volonté de Georges Frêche.
Le contexte économique était peut-être différent aussi.
Oui et non. Ouais. Mais non. Vous savez, si le patron n'est pas vraiment tout feu et tout flamme, ouais. on n'ose pas faire. Il m'a dit, vous invitez Pavarotti. Je dis, non, il n'est même pas question. Il m'a dit, pourquoi? Je vais absolument voir Pavarotti. J'ai dit, parce que Pavarotti, c'était à l'époque, au moins aujourd'hui, ce serait, je sais pas moi, 500 000 euros, et puis voilà. D'abord, j'ai pas 500 000 euros, et puis je vois pas pourquoi je dépenserais 500 000 euros pour Pavarotti. Ça, il le fait à Orange, s'il veut, mais pas chez moi. Alors, il m'a dit, ah bon, il est un peu triste. Et il m'a dit, vous faites-moi un jour Violettes Impériales. Ah. J'ai dit, il n'en est même pas question. Fichez-moi la paix. Il m'a fait ça pendant 10 ans, parce qu'il était un admirateur fantastique de Luis Mariano.
Alors, mais au moins, vous avez fait des opérettes, mais des choses plus oui. rares et plus raffinées.
Et alors, un jour, j'ai fait Violette Impériale.
Ah, vous avez même fait
j'ai mis au programme et manque de bol. Pendant ce mois-là, Georges était à l'hôpital. Il n'a pas pu venir.
En tout cas, il reste un orchestre, un festival,
ah oui,
un
oui,
opéra
oui.
auquel aussi, opéra, avec oui. Henri Maillère, vous avez donné tout
ah
son essor.
Ah oui, il y avait Henri qui est parti en 2000, mais qui avait fait de 85 à 2000, avait fait ça, oui.
Et vous êtes parti un peu plus loin.
Je suis parti très loin, je suis parti à Tresque.
Dans le Gard.
Dans le Gard, à voilà. 30 km d'Avignon, où le maire a exigé tout de suite, à peine arrivé, le lendemain matin, de que je fasse un festival. Alors que j'ai dit, écoutez, je n'ai vraiment pas d'argent, et vous non plus, donc je ne vois pas comment faire. Il m'a dit, débrouillez-vous. J'ai le carnet de chèque, il est petit, tout petit, tout petit. Et moi, il a dit, vous avez le carnet d'adresse. Alors évidemment, j'ai fait, mes amis viennent. Je leur dis, écoutez, vous me demandez ce que vous voulez, je vous paye le voyage, si vous voulez, je vous paye peut-être l'hébergement, et encore, vous habiterez chez moi, mais pour le reste, non.
Mais c'est toujours à la Querine, on vient faire des choses qu'on ne fait pas ailleurs.
Oui, bah, il y a eu Fazilza, il y a Dumais, il y a, Korobeynikov, il y a Niquet, il y a tout le monde, et puis il y a l'humour, de temps en temps. Là, j'ai fait venir des garçons qui s'appellent Fred Blin, des Chiches Capron, j'aime autant Rimabi, Benizio, Shirley Dino.
Bien sûr, Shirley Dino.
Tous ces, qui tous ces aussi gens qui viennent, et puis je fais des cinémas, je fais des expositions, je fais beaucoup de choses.
À propos de l'évolution aussi de la vie musicale, on a parlé de Montpellier, on peut aussi parler de la radio, il y a quelquefois des tas de grandes discussions sur les orchestres de la radio. Vous avez dit un jour, il faut pas un orchestre en moins à la radio, il en faut un en plus.
Oui, mais non, mais attendez, moi je pars d'un principe, on n'est quand même pas plus con que les Anglais. Ouais. Je suis désolé, moi j'ai quelque chose contre les Anglais depuis que je suis petit, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Pas à mon avis, c'est Wellington qui m'a mis dans un faux truc. Ouais. Les Anglais ont 7 orchestres à la BBC.
Ouais.
7 orchestres. Et ces orchestres servent à quoi? À alimenter le programme. Parce que à Radio France, on a un peu tendance à alimenter le programme avec des disques. Or, à la BBC, on alimente avec des enregistrements.
C'était un peu l'origine des orchestres.
Voilà,
ici même
c'est ça.
Également,
oui. Et moi, je crois que c'est une chose importante. Plus il y a de musiciens, plus ça sert à quelque chose. Frech avait dit un truc très simple. Il avait dit, quand je donne 5 euros à Koering, il m'en rend 8. Et c'était vrai. La culture rapporte beaucoup d'argent.
Les orchestres anglais, on va en écouter un autre tout de suite que vous aimez bien également, qui est un peu oui. moins bon que ceux de la BBC.
Moins bon.
Alors, faut vous expliquer, hein, le Portsmouth Symphony Orchestra, j'en ai déjà passé dans l'émission, mais il faut rappeler parce que sinon, on ne comprend pas bien vraiment ce qu'on écoute. Donc, on va écouter le début de Zarathustra, de Strauss, mais voilà, c'était quoi l'idée de cet orchestre
hein? L'idée de cet orchestre, c'est Brian Eno et Peter Gabriel qui avaient imaginé une chose incroyable de faire un orchestre où les copains, tous des musiciens sérieux, hein, des vrais, on ne dirait pas, mais ce sont des vrais musiciens sérieux, ils jouent d'un instrument qu'ils ne connaissent pas bien.
Voilà,
c'est
ça.
Qu'on puisse dire.
Ils connaissent tous la musique, mais voilà. Personne ne joue de son instrument.
Voilà, et alors ils s'attaquent des œuvres quand même difficiles. Ils attaquent par exemple Zarathustra de Strauss.
Also sprach Zarathustra, c'est l'enregistrement du Portsmouth Symphony Orchestra choisi par René Körin. Je vous remercie d'ailleurs publiquement de m'avoir fait vraiment découvrir Richard Strauss, et ce compositeur que j'adore, que vous avez beaucoup programmé à Montpellier. Et il faut dire que finalement, il était un peu souvent dénigré dans les années 70-80, oui, Strauss. Oui, oui. Voilà, on retenait musique
comme
facile, trop séduisante.
Oui, Rachmaninoff aussi, c'était...
Oh non, vous l'avez toujours aimé?
J'ai toujours aimé ça. Ouais. Je sais faire le tri. On a le droit d'avoir mauvais goût. Pourquoi pas?
Et par contre, contrairement à beaucoup de vos contemporains, vous n'êtes pas totalement wagnérien.
Ah là, je suis même pas du tout wagnérien. Ah là, j'ai vraiment... D'abord, vous savez, il y a une amie qui m'a dit l'autre jour, il faudrait vraiment qu'on analyse Wagner à la lueur du code pénal. Parce qu'il y a des choses épouvantables dans ces trucs. J'ai fait un listing de la généalogie wagnérienne. C'est hallucinant.
Bon, bah c'est bien d'avoir encore ce genre de position, parce qu'on est tellement dans la religion wagnérienne,
aujourd'hui, plus que jamais.
René Körin, en tout cas, merci d'être venu. Ça se passe bien, donc, à Tresque, mis à part le festival d'été, vous écrivez de la musique, vous faites de la peinture, comme quand vous étiez...
Non, malheureusement, je n'ai plus de peinture. Non, j'écris, là, oui, j'écris...
Vous cherchez des œuvres nouvelles, encore, sans festival, sans le faire exprès, je cherche
des œuvres nouvelles. J'aime bien lire des choses que je ne connais pas. Vous savez, il n'y a rien de plus beau, et pas seulement en musique, il n'y a rien de plus beau que la première fois. Découvrir un tableau pour la première fois, découvrir une musique pour la première fois, découvrir même une recette de cuisine pour la première fois, ouais. C'est quelque chose qui ça vaut la peine d'être vécu.
Ouais.
Donc, parfois, je me dis quand même, on vit sur que de la conserve et dans un énorme funérarium.
Ouais.
On ne joue que de la musique de compositeur mort. On ne joue... Ça, je sais bien que ça ne va pas durer, ça va s'arrêter dans quelques temps. Ça va s'arrêter, la musique n'existera plus, la musique telle qu'on la conçoit, nous, classique, sérieuse.
Ouais. Ouais.
La preuve, quand il y a une rubrique au jeu dans le journal, la musique, eh ben, on parle d'autre chose que
de ce que nous, on appelle la musique.
Chose, oui, voilà ce qu'on a. Ben oui, mais c'est terminé, c'est tout. C'est terminé. Mais c'est pas grave. Bon. C'est comme ça.
Merci en tout cas, René, pour tout ce que vous avez fait. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et on va se quitter avec Juliette.
Ah oui, alors, je l'ai fait venir un
mot
jour.
Sur ce que, voilà,
je l'ai fait venir à Montpellier avec l'orchestre de Montpellier.
Ouais.
Elle a joué avec l'orchestre, elle a chanté ses chansons. C'était formidable, formidable. Quel humour.
Et là, vous avez choisi l'homme à la moto.
Hein. Ah oui.
Revu et corrigé.
En espagnol.
Comme tout ce qu'on a écouté aujourd'hui. Merci René Körin.
Merci.
Un, deux, trois, quatre.
Porté des culottes de bonte de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur les dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon s'aimait la terreur en toute la région guide. Mi corazon et à mes s'il ne s'est lavé, à mes s'il ne s'est pas fait, les sangles pleins de cambouis, mais sur les biceps, sur le vé, un tatouage avec un corps sur la probleme, et juste à l'intérieur, en lisse ma main, je te quiero. Il avait une petite amie qui se llama Marilou, on la prenait en pitié, un enfant de son âge, car tout le monde savait bien qu'il la mettait entre tout, sa fière de moto, bien de 20 des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon s'aimait la terreur en toute la région. Mi corazon Marilou, la pauvre cita chica l'implora, le supplia d'une part pas s'asseoir, j'avais pleuré sur ta main, les mots furent perdus, se l'arme pareillement, mais les bruits de la machine et du tuyau d'échappement, il bondit comme un diable avec des flammes dans les cieux. Au passage animaux, ça fut comme un éclair de feu contre une locomotive qui filait vers le midi et quand on débarrassa les débris, on trouva sa culotte, ses bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Madame de la maquina et Madame de Sédéman qui sème la terreur en toute la région et en mi corazón par la même occasion.
L'homme à la moto, version comique interprétée par Juliette et choisie par mon invité d'aujourd'hui, René Querigne. Nous avons commencé Strasbourgeois, nous finissons Strasbourgeois, et même doublement, avec Émile Waldteufel, compositeur né à Strasbourg en 1837, et l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg qu'on vient d'entendre dans cette polka des tambourins, sous la direction de Theodor Guschelbauer. Mais il est temps, maintenant, sans plus attendre, de retrouver pour notre rendez-vous mensuel Serge Elaïc. Bonjour Serge.
Bonjour Benoît.
Et tous les passionnés d'arrangement, d'orchestration de France et de Navarre sont à l'écoute.
Oui.
comme chaque fois que vous êtes là d'ailleurs. Et aujourd'hui, vous nous parlez d'un grand homme de l'arrangement, de l'orchestration, monsieur Guy Luypaerts.
Oui, absolument. Je crois que c'est l'un des plus grands, Guy Luypaerts, l'un des plus grands chefs d'orchestre et compositeurs français de musique symphonique dite légère. Alors, Guy Luypaerts s'est éteint le 19 septembre 2015, quelques jours avant son 98e anniversaire. Alors, c'est à Paris, dans le 17e arrondissement, qu'il naît en 1917 d'une famille belge résidant en plein cœur de Montmartre. Son père, François Luypaerts, était un flûtiste de bon niveau. Et alors, belle nouvelle pour les amateurs, un CD de la série Les chansons de ma jeunesse vient de paraître chez Marianne Mélodie avec 25 chansons ou musiques, toutes composées par Guy Luypaerts entre 1940 et 1952. Alors pour prélude, eh bien nous allons écouter « Monde », interprété après-guerre par Lise Gotti. C'est sûrement l'une des plus belles mélodies signées par Guy Luypaerts, qui de plus dirige l'orchestre.
Tout un monde dans tes yeux, je découvre tout un monde, et joyeux mon amour y vagabonde. Comme un oiseau dans le ciel bleu, un rivage où le soir il fait bon faire naufrage, où l'on paie de baiser le beau voyage, où tient pour deux la joie du monde. Monde, où tout le bonheur vient danser dans les cœurs, sa ronde, où le vent d'été tendrement vient chanter la nuit pour toi et pour moi, alors qu'au ciel parfois l'orage gronde. Tout un monde plus changeant qu'un reflet de l'eau profonde, où le temps que s'écoule une seconde semble durer. L'on murmure un doux « je t'aime » pour qu'à l'instant même tout soit bleu. Un paradis où quelqu'un m'a dit qu'on vivait heureux à deux. Dans ce où ce soir mon conduit tes boucles blondes, mon amour, laisse-moi bien loin du monde, t'emporter pour toujours.
Monde, une chanson de Guy Luypaerts et Jacques Larue, chantée par Lise Gotti en 1947. Et donc, Serge et Laïc, vous nous parlez aujourd'hui de Guy Luypaerts, qu'on connaît surtout évidemment comme chef d'orchestre de Charles Trenet, mais j'imagine que c'est à l'ordre du jour.
Absolument. Alors, revenons donc aux jeunes années de Guy Luypaerts. Sur les conseils de son père, qui était donc musicien lui-même, il apprend d'abord l'accordéon, puis de façon parfaitement autodidacte, Guy Luypaerts se met au piano lors de son adolescence et dès cette période, son penchant pour le jazz prend le dessus. D'ailleurs, il va jouer dans divers cabarets parisiens, évoluant comme pianiste dans des orchestres américains comme celui d'un certain Willie Lewis. Événement important dans la vie de Guy Luypaerts dès l'automne 1937, il s'engage volontairement dans la musique de l'air comme contrebassiste, et oui. Ce qui n'empêche pas notre militaire de poursuivre en nocturne ses activités jazzistiques au piano. Et deux ans plus tard, nous sommes en 1939, lors d'une répétition du théâtre aux armées à Aix-en-Provence, eh bien, Guy Luypaerts croise alors la route de Charles Trenet, dont vous parliez,
voilà.
Mobilisé, lui, dans la région. Le fils de Guy Luypaerts, Guy-Claude Luypaerts, qui est un compositeur et un flûtiste virtuose, eh bien, Guy-Claude Luypaerts se souvient d'une anecdote ayant émaillé le parcours commun des deux artistes.
Mon père et Charles Trenet se sont connus en 1939. Ils étaient tous les deux à la musique de l'air. Et Charles Trenet a demandé à mon père de l'accompagner. Ils sont allés partout dans l'Est, à Monaco, voir le prince. Ils ont joué devant plein de personnalités. Tout ça en voiture, parce que Charles Trenet adorait les voitures. Et il avait une superbe Delage qu'il conduisait à tombeau ouvert, avec mon père qui avait une trouille finie, naturellement. Enfin bon, il s'était habitué. Et ils ont fait toute la France comme ça, juste avant la déclaration de guerre, ce qui fait qu'ils se sont retrouvés, en fin de compte, avec des mots et des mots venant du ministère, « revenez vite, revenez vite ». Et chaque fois que Trenet recevait ce mot, un télégramme, il déchirait le télégramme. Et en fin de compte, ils étaient déserteurs, tous les deux. Si bien que lorsqu'ils sont revenus à Paris, ils ont été mis aux arrêts, mais là, tout de suite. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le colonel a demandé, un, mon père, à la machine à écrire, dans un bureau, sans bouger, tant pis, et Charles, balayé à la cour du ministère. Balayé à la cour du ministère, c'était une autre paire de manches, parce que il a balayé la cour, en chantant. Ce qui fait que tout le monde était aux fenêtres pour écouter Trenet. Ce qui a paralysé le ministère pendant 2 jours. Et au bout de 2 jours, le colonel a dit, bon, ça va, ça suffit, vous pouvez rentrer chez vous.
J'ai vu tomber la pluie des villes, j'ai vu tomber la pluie des champs. Solitude, ami trop tranquille, tu pleurais dans le mauvais temps. Mais toi, chérie, malgré le givre, tu fais refleurir du printemps. Dans la chambre où nous allons vivre la chanson que nous aimons tant. Près de toi, mon amour, tout est bleu comme dans un songe. Tout est pur, près de toi, mon ange. Près de toi, le ciel est moins lourd. Dans tes yeux, je revois les beaux jours, les jours d'insouciance. Je revois nos jolies vacances et je pense sans cesse aux jours où tu vas dans ma vie pour changer tout. Ma joie, ma tendresse, ô mon amour, près de toi, j'oublierai la vie et ses peines. J'oublierai pour une heure à peine le monde et tous ses discours, près de toi, mon amour.
Près de toi, mon amour, Charles Trenet, bien sûr. Alors, co-signé la musique donc par Guy Lepard, ce qui est assez rare dans le cas de Charles Trenet, qui est presque toujours le seul compositeur œuvres.
Il a ensuite composé avec quelques autres personnes, comme notamment Léo Chauliac ou Albert Lasserie pour La Mer. Alors, dans les années 50 et pendant plus de 2 décennies, eh bien, on retrouvera très souvent Charles Trenet et Guy Lepard en studio. Et ils immortaliseront ensemble des titres restés dans toutes les mémoires, comme le Vieux Piano de la Plage, Route Nationale 7 ou Les Relations Mondaines, par exemple. Guy Lepard fut un arrangeur et un accompagnateur très prisé dès le début des années 40. Et alors, en dehors de Trenet, d'autres grands artistes ont fait appel à lui, comme Lucienne Boyer, Tino Rossi, Yves Montand ou encore Édith Piaf, pour laquelle il orchestra et dirigea l'immense succès La Vie en Rose, enregistré en janvier 47. Prolifique compositeur, Guy Lepard signa avec Georges Hulmer la musique du succès planétaire Pigalle en 1946, sans oublier ses musiques écrites pour Libellule, qui fut chantée par Jean Sablon, ou pour A Compostelle, interprétée par Annie Cordy.
Sur la grande route de Compostelle, y a une fille qu'on t'en sait pas. Que faites-vous donc, mademoiselle, pourquoi marchez-vous comme ça? Des pèlerins du vieux Compostelle, cherchez-vous à retrouver le pas. Au bon Saint-Jacques, êtes-vous fidèle pour marcher de ce pas-là? Non, monsieur, répond-elle en riant aux éclats. Non monsieur, mais j'apprends à danser la samba. Sur la grande route de Compostelle, l'air attentif, elle reprend son pas. Le bon Saint-Jacques du haut du ciel pour l'aider compte 1, 2, 3. Elle est charmante la demoiselle, et le monsieur voudrait bien, ma foi, sur la grande route de Compostelle la connaître mieux que ça. Mais dès qu'il veut se rapprocher d'elle, à reculons, elle fait vite un pas. Hélas, je vois bien, mademoiselle, que vous moquez de moi. Non monsieur, n'imaginez surtout pas cela. Non monsieur, mais je m'entête à trouver ce pas. Tout essoufflé, le cœur plein de zèle, le monsieur fait des effets de voix pour capter l'attention de sa belle, mais elle ne l'écoute pas. Car sur la route de Compostelle, un beau garçon arrive à grands pas, et le monsieur voit la demoiselle gaiement lui tendre ses bras. C'est Juanito, quel bonheur, dit-elle, ce soir il n'invitera que moi. Nous irons au bal à Compostelle pour y danser la samba. Oui monsieur, vous semblez n'avoir pas compris ça. Oui monsieur, c'est pour lui que j'apprenais ce pas. Sur la grande route de Compostelle, l'air attentif et content ses pas, le monsieur pour plaire aux demoiselles apprend bientôt la samba.
La chère Annie Cordy en 1952 dans À Compostelle, une chanson de Guy Luypartz dont vous nous parlez aujourd'hui, Serge Laïc.
Alors, Guy Luypartz a composé de nombreux petits poèmes symphoniques, des œuvres plus classiques telles concerto, rhapsodie, musique de ballet, ainsi qu'une symphonie. Il a dirigé d'innombrables concerts en France, notamment, mais ailleurs aussi. Et au moment où la musique légère n'aura plus du tout le vent en poupe, malheureusement, alors il offrira ses compositions aux orchestres d'harmonie, très heureux de bénéficier d'un tel talent pour leur répertoire, évidemment. Alors, je voudrais conclure, et je sais que ça va vous faire plaisir, Benoît, avec une œuvre de Guy Luypartz qu'il avait enregistrée pour le service des musiques légères
et
de Radio France.
Le regretté service voilà. Des musiques légères de Radio France.
Absolument. C'est un extrait de Petite Fée, l'une des pièces de sa suite Evergreen, démontrant une fois de plus le talent de cette immense figure de la musique française de qualité que fut Guy Luypartz.
Ce petite fée par l'orchestre de musique légère de Radio France. On va essayer de le recréer, hein. Il serait temps.
Ah oui, je serais content.
Merci, voilà. Merci cher Serge et Laïc pour
Benoît.
Cette excellente chronique.
Et à bientôt.
À bientôt. Ainsi s'achève Étonnez-moi, Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Annie Comier. Aujourd'hui, la réalisation était co-signée Christine Amado et Géraldine Prutner. Alors attention, on ne se retrouve pas samedi prochain parce que ce sera la folle journée à Nantes, émission exceptionnelle comme chaque année. Nous, on a rendez-vous sur France Musique dans 15 jours. Bon week-end à tous. Et sur France Musique, vous avez rendez-vous maintenant avec Philippe Venturini.